La nouveauté rock française avec Chris.
Bienvenue à toutes et tous dans ce hors-série numéro 7 de la nouveauté rock française sur SLS consacrée à Gogo Juice. Je prononce bien ?
Tu prononces très très bien.
Alors j'ai le plaisir de recevoir...
Nelson.
Membre de...
Gogo Juice.
Ça va, soit des Beatles ? Non, des Gogo Juice.
Gogo Juice.
Bon, pourquoi pas, peut-être... bon, c'est bon. Comment tu vas ?
Très bien. Très bien. Je suis un peu sous le coup de l'émotion du trafic parisien de faire le trajet Rouen-Paris.
Ouais.
Puis que je vais refaire Paris-Rouen. Ça va.
D'accord.
J'ai failli me prendre 3 motos, j'ai été klaxonné par 10 000 taxis, mais ça va.
Bon. Tout va bien, sain et sauf.
Ouais.
Donc la route fut un peu longue quand même, hein. Tu viens comme de loin.
C'est 2 heures à peu près, oui.
2 heures.
2 heures tranquille.
Bon, t'as bien, j'en mets autant, moi, d'où je viens. Mais bon, c'est pas grave. Côté bio, Gogo Juice est un quatuor originaire de Rouen.
Oui.
Formé en 2017.
2017-2018, ouais, dans ces eaux-là.
Et donc, il est composé, donc c'est un quatuor. Il est composé de qui ?
Alors, il y a Nathan à la basse, Sacha à la guitare, Martin à la batterie, et moi-même au guitare-chant, lead.
Ouais.
Nous sommes 4.
Et auparavant, il y avait un line-up un petit peu différent qui est entré, qui est sorti ou...
Ouais, il y avait un line-up qui était bien différent dans le sens aussi où la musique était différente. C'était plus porté sur du psyché garage années 60. Il y avait un ancien Martin, il y avait JB qui était à la basse, il y avait Hugo Van Lien qui maintenant est guitariste, claviériste chez Mankins.
Ouais.
Il y avait pas mal de line-up différents, mais là maintenant les camarades que j'ai avec moi, le groupe Gogo Juice actuel, ça fait 3 ans maintenant qu'on est les frérots.
D'accord. Et j'avais noté aussi quelque part écrit qu'il y avait peut-être éventuellement une possibilité d'un 5e membre.
C'est pas impossible. C'est pas impossible. On verra.
On verra. D'accord.
Ça titille dans la tête un peu.
D'accord. Cette fois du clavier en plus, non? Peut-être non.
Peut-être un tambourin.
Un tambourin. Pas un tuba. Hein.
Ben non, pas un tuba. Pourquoi pas? Mais un tambourin. J'aime beaucoup Joël Légion des Brian Johnston Massacre, le gars qui fait juste de la percussion, notamment du tambourin, qui est tout seul sur scène. Et pourquoi pas? Peut-être que ce sera une fille. On verra.
Ah, original. À voir. Donc il y a la suite en tout cas. Côté discographie, alors on a un premier EP. Alors, fut un temps, il était éponyme et qui maintenant se nomme Défense, ou il a toujours été Défense ?
Le premier EP s'appelle Defenses.
Defenses.
Mais tu peux dire Défense, hein, au pluriel, oui.
Et d'ailleurs, ce nom, il apparu tout de suite ou dès le départ, c'était Defenses ?
Non, c'est venu beaucoup plus tard, en fait, quand on a eu les morceaux, on cherchait un titre qui faisait écho un peu au morceau et on s'est dit que ce Defenses, ça pouvait être pas mal, quoi.
Alors, c'est-à-dire un premier EP opus remarquable, hein, revitalisant, plein de vitamines. Est-ce que c'est parce que c'est Gogo Juice ? Et d'ailleurs, d'où vient ce nom ? Est-ce que c'est lié à la vitamine, le liquide américain, là, non?
J'ai envie de mordre de rire à chaque question. Le nom vient d'un... Alors, il y a Montage of Heck de Kurt Cobain, qui a été fait par, j'ai oublié le nom du réalisateur, mais il y a eu un documentaire sur Cobain où, au tout début, quand tu vois le logo de Universal, t'as des petits espèces de méli-mélo, de bribes de voix, de machin, et t'as une voix qui fait « Gogo Juice, a real fuel ».
D'accord.
Ouais. Et en fait, c'est surtout aussi la vérité, c'est que c'est dans les années 80, on vendait un espèce de cocktail bourré de saloperies, comme si c'était une boisson énergisante, tu vois. Et en fait, ça a été retiré des ventes parce que les gamins, ils se ruaient dessus, au même titre que c'était l'époque où on allait chez des fast-food et tout. Ça a été retiré des ventes parce que c'était de la merde. Du coup, on appelle ça on s'est dit Gogo Juice, c'est pas mal comme nom.
Après, et ce nom, il a fait des débats au départ, ou est-ce que c'était vraiment, on s'est accordé sur ce nom-là unique, ou il y avait d'autres noms possibles ?
Il n'y avait pas d'autres noms possibles, mais j'ai eu beaucoup de temps. Je pense qu'on a pris du temps pour vraiment se dire, est-ce que c'est un bon nom de groupe ? Et à titre personnel, j'ai voulu changer de nom. Et en fait, avec le temps, on s'est habitué et c'est cool, quoi. Maintenant, il y a des copains qui nous appellent les gogos. Enfin, c'est voilà, quoi.
Pas les gogos, hein, les gogos. Hein.
Les gogos. Mais les gogos qui, enfin, c'est, je crois que dans le dictionnaire, c'est des gens qui sont un peu, c'est un peu genre des suiveurs ou tu sais des. genre c'est un peu des tarés, genre la Monty Python ou machin, nous on voit ça un peu comme ça quoi. C'est
d'accord,
marrant.
Bon bah en tout cas ça se retient avec le juice et le nectar bien sûr. Alors il y a eu un deuxième EP, New Values, c'est ça, sorti en 2023.
Ouais.
Alors bah, peut-être plus psyché, un côté The Shadow, Arctic Monkeys, avec une escalade hein, selon moi qui va de la folie à la frénésie du groupe. Les BPM apparaissent beaucoup plus intensifs. Les encouragements aussi de claquements de mains, notamment à la fin du titre Ship, je crois, de mémoire. Est-ce que ça signifie qu'on s'encourage au quotidien dans Go-Go Juice ? Est-ce que... côté émulation,
bonne question. C'est un peu un appel à la fête, surtout, tu vois, c'est ne pas trop se retourner. Alors, on va y venir parce qu'après on va parler de l'EP, de l'album qui est sorti, mais sur New Values, en fait, c'était un peu un appel à la fiesta, à la camaraderie, le fait de, ouais, le fait de pas avoir à se poser trop de problèmes. Et à la fin de Cheap, du coup, ce fameux morceau où on l'a clippé, on a voulu faire un espèce de clip un petit peu bizarroïde où, tu vois, c'est des jeux, c'est un peu quelque chose en lien avec la société, où quand tu allumes la télévision et que tu vois une émission de tirage de loto ou de loterie ou que sais-je, y a un côté un peu Requiem for a Dream, tu vois, où tu as la personne qui est devant sa télévision et qui est obnubilée par ça, qui oublie de nourrir le chat, qui oublie de se nourrir lui-même, enfin bref, et y a ce côté vraiment genre d'absorption,
ouais.
Et du coup cette célébration à la fin du clip, c'est un applaudissement en mode détache-toi de tout ça, essaye de vivre les vraies choses, tu vois.
Alors dans cette EP, il y a noté effectivement, il y a ce qui s'appelle Don't Be Cool, qui est pour moi le go-go tract en termes d'ambiance. Est-ce que, avec un petit thème à la Stroke, la formulation. Est-ce que le côté hymne est important dans les titres que l'on fait dans un groupe?
Le côté hymne.
Hymne,
pardon.
Ouais, en thème. C'est une recherche.
Tu veux dire dans le titre?
Oui, dans le titre, ou sinon quand on fait un titre, est-ce que c'est ce qu'on recherche? Bon, peut-être plus ou moins, mais est-ce que ça flatte finalement quelque part d'avoir un titre qui relève d'un hymne de rock?
Alors en termes de titrage, moi je trouve que chercher un bon titre de chanson, je trouve que c'est inutile au final.
Ouais.
Tu peux très bien, tu vois, genre j'écoutais sur la route Airbag sur le Hockey Computer de Radiohead. Je me suis dit, mais ils ont appelé le morceau Airbag. Est-ce qu'ils étaient inspirés en étant en bagnole et en ayant vu qu'il y avait marqué airbag sur le volant? Ils n'ont pas été chercher plus loin, tu vois. Et pourtant, la chanson parle un peu de ça aussi, tu vois. Mais non, je pense qu'on ne se pose pas trop de questions, en fait, sur les titres de chansons. Souvent, quand on fait des démos, je vais prendre un truc au pif, genre un truc ce qui est marqué sur un briquet. Je vais prendre un code barre, je vais faire les chiffres, ou je vais marquer prof, tu vois, sur le briquet que je tiens. Bref, il n'y a pas trop de titrage. Et ce côté hymne, je pense qu'il vient après l'écriture des paroles, tu vois.
Et justement, en parlant de la mélodie plus que le titre, donc quand on crée un titre sans trop savoir en fait l'effet que ça va avoir, à partir de quand finalement on sait que ce titre il plaît au public de manière générale, ou et quelque part, est-ce que ça flatte l'ego Juice, ou ça flatte plutôt l'alter ego Juice? Est-ce qu'on a une approche plutôt personnelle ou altruiste?
Je pense que le morceau peut plaire au public dès l'instant où le public commence à chanter les paroles au concert, tu vois. Ça nous fait un bien tellement fou. Récemment, on avait fait un concert aux trois pièces dans notre fameux bar à Rouen où tout le monde joue. Et puis on a entamé des morceaux et les gens étaient en train de crier les paroles, quoi. Donc on en est arrivé à un stade où on a nos copains... de la maison qui commence à chanter un peu nos chansons, quoi.
Ça fait du bien, ça.
Ça fait vraiment du bien.
Ça fait du bien. Hein. On a... Ouais, je pense que ça marque, en tout cas. En tout cas, quand on est public, on est pris, nous, effectivement, à chanter, à danser. Enfin, il y a ce côté interactif. On n'a pas forcément dans l'idée de se mettre à la place des artistes qui sont sur scène. Mais effectivement, ça va faire un bien fou.
Ouais. En fait, ce qui est surtout cool, c'est de pouvoir avoir des mélodies, d'avoir cherché des bonnes mélodies intéressantes dans les refrains. Et en fait, on avait un gars qui... On avait fait une date à Paris, un gars qui est sorti, on fumait une clope et tout. Il nous disait, mais c'est con parce que dans vos morceaux, il n'y a pas tellement de refrains, en fait. Il n'y a pas beaucoup de refrains dans vos morceaux. Et c'était l'époque où on était sur encore New Values. On venait de sortir New Values, notre deuxième EP. Et on s'était dit, mais ouais, c'est con ça. Il faudrait peut-être faire plus de chansons avec des refrains pour que le public retienne un peu tout ça, quoi.
Oui, c'est mélodie. Vrai. En tout cas, qui s'attendent en fait à avoir tel titre et à avoir cet impact en disant effectivement quand le refrain est là, et dire ah, ça y est, j'ai ma chance, je peux chanter en même temps.
Ouais,
que
voilà,
je peux les rejoindre quasiment. Exactement. Sur scène. Mais effectivement, je confirme, étant souvent dans le public. Bon, on a dit de vous ici sur Restless, Go Go Juice apparaît vraiment être une très belle révélation de ce début d'année. Il est vrai qu'entre Restless et Go Go Juice, c'est une histoire qui remonte à 3 ans maintenant. Depuis, il s'en est passé du temps pour arriver à ce premier album sorti en mars 2025. Rewind the After Party. Est-ce un opus bilan de Go Go Juice ou est-il la somme du tout et pas seulement une évolution ?
Je pense que c'est la somme de pas mal de choses. Sur le fait qu'on a eu un Blue Bee Bulga d'influences différentes. De par le fait que, encore une fois, on se répète à chaque interview, mais Nathan, Sacha, Martin et moi-même, on a vraiment des influences différentes. Et Martin, il est dans le jazz house, Nathan, il est dans la country, Sacha, il est dans le rap, et moi, je reste dans le rock standard, on va dire, tu vois. Mais c'est un assemblage, un méli-mélo de beaucoup de réflexions de ce qu'on avait envie de mettre chacun. Et c'est un peu le produit final de ce qu'est notre groupe vraiment à l'heure actuelle, c'est-à-dire tu vois, New Values, il y a eu plus de chansons de moi, par exemple. Il y a eu là pour cet album-là de Rewind the After Party, c'est vraiment la consécration de ce qu'on avait dans le crâne à nous quatre, quoi.
C'est un collectif, enfin un concentré collectif.
Ouais, franchement, ouais. En fait, on en est arrivé, on avait fait une résidence où on avait enregistré des morceaux comme ça au pif. C'est sorti un peu tout seul. On a réfléchi, Nathan a écrit des paroles, il a beaucoup écrit sur cet album. Martin, il a réussi à trouver des patterns de batterie qui sortent carrément de l'ordinaire. Et Sacha, pareil, il a sorti des riffs sans qu'on consulte, en lui disant « mais tu devrais peut-être changer ça, machin, machin ». En fait, ça s'est fait tout naturellement. Et c'est très très cool.
Et comment le temps s'est passé au cours de ces 4 années du côté Go Go Juice, c'est-à-dire que ce fut rapide, il y a eu une évolution au rythme des envies, des déceptions, des satisfactions, est-ce que à peu de choses près, enfin c'est quoi le truc, est-ce qu'il y a eu des dérapés et wow. Puis j'ai noté aussi quelque part qu'il aurait peut-être pu ne pas se faire cet album.
Qui t'a dit ça ? Non, oui, en vrai, alors il faut savoir qu'on est un groupe qui est très lent, mais avec ces années-là qui se sont passées, on a réussi à être quand même beaucoup plus rapide dans notre démarche, puisqu'on s'est entouré d'une manageuse, on s'est entouré d'une attachée presse, sans qui probablement l'interview qu'on ferait ensemble aujourd'hui n'aurait pas lieu.
C'est un fait.
Voilà, mais non, on a eu tellement de choses, on a appris beaucoup de choses. Des erreurs qu'on a faites qu'on probablement ne reproduira pas la prochaine fois, sur le temps de conception d'un album, sur le temps de mixage, sur le choix de dates aussi, sur des dates qui ont été faites, des rencontres. Franchement, je dirais pas que c'est en 4 ans, mais en moins que ça. Hein, là, l'année qui s'est passée, là, on a joué au Point Éphémère, on a joué à Petit Bain, on a fait des premières parties de groupes américains, canadiens et tout. Et trop bien. On a patienté, on a fait que d'avoir ces putains de morceaux dans la tête de l'album. Et l'album a été fini de mixer, il a été masterisé, il a été pressé sur vinyle. Et maintenant c'est terminé. Les vinyles, on les a reçus il y a une semaine. Ouais. Et Enfin.
Et Rewind the After Party, finalement, est-ce que c'est le chapitre 1 de la story de Go Go Juice ? Mais sans supposer qu'il y en aura d'autres, mais sinon...
Je pense qu'il y aura d'autres chapitres.
Ouais.
On est en train de bosser sur d'autres morceaux. On va probablement faire un espèce de petit EP, vraiment peut-être un 4 titres, tu vois. Histoire de relancer un peu la machine et de montrer qu'on a de l'actu ensuite. Parce qu'on voulait s'orienter vers cette piste un peu plus shoegaze, un peu plus zinzin, un peu plus brut dans notre son. Qui auparavant était un peu... On savait pas trop comment se définir, tu vois. C'était un peu... Go Go Juice, c'est quoi ? C'est du rock, c'est du rock alternatif, c'est du psyché, c'est du shoegaze, c'est du post-punk, du garage. Bah là, en fait, dans tout cet album-là, il y a cet assemblage-là, mais dans la suite, on va peut-être resserrer les boulons et on va peut-être s'orienter vers un style plus simple. Tout en gardant notre patte de base. Mais oui, oui,
il y a des... Justement, on va revenir à cette patte. Et cette after party, il s'agit. On fait référence à un événement particulier. Est-ce que c'est un vécu? C'est un moment où vous êtes partagé après un concert? C'est quoi cette after party?
C'est pas forcément un vécu, c'est surtout quand on passe du temps avec des personnes. Alors souvent, soit tu passes du temps avec ta compagne, ton conjoint ou machin, que sais-je, mais nous, dans notre vie actuelle, c'est souvent des afters ou ce genre de trucs. Donc quand t'as envie de décompresser avec des copains et que tu vas en after boire des coups et puis t'écoutes la musique à fond machin, en fait tu passes tellement des bons moments qu'en fait t'as pas envie que ça s'arrête. Et le lendemain, quand t'assumes pas ta gueule de bois et que tu te réveilles, tu dis plus jamais. Bah en fait, quand tu te dis, en fait c'est un peu ce retour en arrière, c'est de se dire putain, mais il y a pas forcément le fait de revivre les après-midi qu'on passe avec des copains ou ce genre de choses. C'est beaucoup de nostalgie, tu vois, au fond. C'est Rewind the After Party, ça englobe les histoires qu'on pouvait avoir avec nos parents, nos grands-parents quand on était gamin, tu vois, quand on roulait dans la Volvo de sa mère qui fumait des clopes à l'avant. Moi personnellement, c'est des souvenirs comme ça. Donc Rewind, c'est le côté remontant, revenons en arrière,
ouais,
pour toujours revivre les mêmes moments, tu vois, souvent.
Donc la notion du temps est importante chez les gougous.
Oui, oui. Ouais, c'est j'adore ça, le voyage dans le temps. Ouais.
Donc on est très album photo aussi peut-être, non, non. Parce qu'on a justement, on est raccroché à des souvenirs, soit personnels ou collectifs. Mais en fait, cette accroche au passé est une source d'inspiration chez les gougous.
Complètement.
Complètement.
Complètement. Ouais. Tu vois, les années... je prends exemple comme ça juste à la va-vite, mais les années 90 qui sont il y a un revival de fou furieux quand tu regardes les fringues des gamins genre de plein de gens en fait qui tu les vois dans la rue, tu vois des skatos, tu vois des machins, tu regardes leurs fringues, t'as l'impression qu'on est retourné dans les années 90, pas que vestimentairement parlant, mais d'un point de vue musical aussi. Il y a des groupes qui pop à foison, qui te font quasiment la même patte des années 90, des trucs de DIY et de d'enregistrer. Vas-y, que j'enregistre sur cassette parce que le son est très bien et c'est que vrai. Machin. Donc en fait, ouais, ce côté vintage, ce côté très nostalgie en fait. Ouais.
Très nostalgie.
Ouais, nostalgie.
Bon, c'est important. Très important le temps qui passe et puis d'être dans son temps aussi.
Hein. Oui.
Alors de notre côté, vous avez toujours aussi bon goût. On aime à croquer ou savourer le nectar de Gogo Juice. Vous avez des qualités de groove, une patte justement talentueuse pour la création de compositions très dansantes, de belles mélodies. C'est euphorisant, psyché, enivrant, comme les fragrances de patchouli, mais aussi frénétique. Dans ce fameux premier album, le très tonique et dernier nectar de Gogo Juice, Rewind the After Party. Quelle liberté avez-vous prise qui n'était pas dans les précédents EP? Des prises de risques, des nouveaux instruments, des styles peut-être?
Waouh, un clavier.
Oui.
Un clavier qui appartient à Martin, notre batteur, qui est un prophète, le clavier. Qui est un clavier de... Juste tu l'allumes, tu fais on, tu mets n'importe quel programme au pif, t'appuies sur une touche, tu fais... Wow. Le son. Et voilà, on s'est dit, bah tiens, et si on testait une chanson ou deux ou trois? On en avait quatre, je crois. On en a retiré deux au clavier, on en a conservé deux au final. Mais non, ouais, du clavier, de la percussion, tambourin, shaker, machin. Et puis c'est surtout que je pense qu'il y a eu plus de liberté sur le comment ça s'appelle? La... Je trouve pas mes mots. Merde. La conception, quand tu es en studio, tu sais, t'as enregistré le squelette des morceaux.
Ouais.
Et là, tu dis, bon, bah vas-y, on fait du pif, en fait. On fait juste... Tu prends cet instrument-là, c'est une flûte. Prends la flûte, on verra bien.
D'accord.
Et en fait, il y a eu un peu de trucs comme ça. Il y a eu un peu de... Ah, mais merde, j'ai pas le mot. Putain.
D'improvisation?
Oui, d'improvisation, production, d'expérimentation.
D'expérimentation.
Voilà, d'expérimentation.
Un peu de prog ou pas? Non, pas du tout, non? Non? Ou d'expérimentation plutôt?
Ouais, juste expérimentation au pif. D'accord. On s'est dit, bah tiens, qu'est-ce qu'on fait? Tiens, si on rajoutait une guitare, on le passe à l'envers dans la bande, dans la tape, on le fout en reverse, sur la voix, vas-y, je vais chanter dans un gobelet en plastique, ça va faire un effet. L'expérimentation, c'est trop bien!
Ouais.
C'est super.
Ça fait, laboratoire. Enfin, le studio d'enregistrement est un laboratoire pour le
coup. C'est un peu ça, oui.
C'est ça. Ouais. C'est chouette, ça. On imagine les tenues blanches et tout. Avec,
les éprouvettes.
Mais pas les cheveux encore grisonnants, bien sûr. On ne dira pas l'âge. Bon, quand on entre dans cet album, on frappe trois fois avant d'entrer et on laisse Bob Dylan dehors. Hein. Knock, knock, knock. Savoureux ce titre. Il transparaît une envie de parade, de show, de spectacle, de plumes d'autruche, je dirais.
Waouh.
Impressionnant ce premier titre, fier de cette onde groove, démente un petit peu comme du psych-up Marcel, les Belges, je trouve. Alors, les voix, ce sont qui ? C'est qui sur ce premier titre ?
Collaboration, Here is Hose, Storm Breakthrough, I'm Under the Porch. Ça, c'est Nathan qui le dit.
D'accord.
Pendant que je brosse le cheval de Henri, When I brush on his horse, a storm breakthrough, il y a une tempête qui approche, je suis sous le porche. Tu vois.
Ouais.
Donc c'est ce que dit Nathan. On entend Sacha aussi qui hurle, et puis c'est nous trois en fait, il y a nos trois voix. Il y a une espèce de question-réponse, tu sais. Isn't it surreal that I'm being at you though? Why so wise? Il y a un truc un peu cinématographique, un peu film d'horreur, un peu un truc à la comment il s'appelle, Dracula, tu vois, genre il y a ce côté très un peu film noir, et en fait c'est un condensé de pareil de la culture.
Ouais.
C'est un énorme truc de culture, c'est tout va très vite, la télévision, les machins, les publicités, les trucs et tout. C'est pour ça qu'en fait aussi on en a fait un clip où c'est des images d'archives des années 80 de la télévision japonaise. Et ouais, c'est un méli-mélo de tout va trop vite en fait. Voilà.
D'où cette impression de spectacle, de show,
finalement, qui transparaît. Ouais. Ouais,
côté burlesque, effectivement, qui déstabilise notamment avec ce son des voix. C'est pas que ça part dans tous les sens, c'est que il y a un côté effectivement cinématographique. On en joue. C'est ce qu'on entend, en tout cas dans le titre.
C'est marrant que tu dises burlesque, parce que quand j'ai voulu faire le montage de ce clip, je savais pas quoi mettre comme image. Je me suis dit, je vais mettre des images d'archives un peu, parce qu'il y a plein de groupes qui ont fait ça. Il y a les Strokes qui ont fait ça avec des bagnoles et tout. Et je crois que dans les images d'archives, j'avais cherché des personnes qui faisaient du French Cancan à l'époque, dans les années 40, tu vois.
Oui.
C'était des images en noir et blanc que j'avais accéléré. En fait, ça marchait.
Et
on a changé, on a mis d'autres choses. Mais oui, le côté burlesque, je suis bien vu.
C'était
très bien vu.
Et effectivement, il y a une onde aussi mélancolique, parce que justement, bon, les spectacles, il y en a encore aujourd'hui de ce style-là. Mais bon, on est plus sur des c'est pas une thématique passée, c'est simplement il y a cette réflexion peut-être sur le temps qui passe aussi toujours, et cette onde mélancolique qui est perceptible dans ce titre. Et quelque part on se dit, est-ce qu'on a peur de vieillir chez les Go Go Juice?
Non,
du tout.
Ah non.
Non, on est conscient.
Franchement,
du temps, enfin non pas du temps qui passe, mais on accepte.
Oui, je pense qu'on accepte. Je sais pas, enfin mes camarades sont pas là pour confirmer la chose, mais en parlant pour leur nom, je pense que c'est ça. Ils diront la même chose, que non, on n'a pas peur de vieillir. Au fait est que dans notre tête, on est des gamins. Hein. Moi, j'ai bientôt la trentaine. Martin a bientôt la trentaine. J'ai l'impression d'avoir 14 ans, tu vois. Et même George Harrison disait ça. Hein, il disait à je sais plus combien, à 50 piges, il disait. J'ai 50 ans d'extérieur, mais à l'intérieur, je suis toujours le Harrison des Beatles, qui était insouciant, machin, machin, qui faisait des conneries. Peur de vieillir, non. C'est vraiment, je pense, c'est plus une peur, peut-être une peur de l'abandon, tu vois, un espèce de truc, une espèce de se retrouver seul face à un mur et toujours être devant le, tu vois, la peur de plus avoir d'inspiration, par exemple, tu vois.
D'accord.
D'être en panne,
la feuille blanche.
La feuille blanche, ça, pour ça me fait un peu plus peur. Mais ça, c'est personnel, encore une fois. Mais quand je suis avec mes camarades et tout, il y a pas à avoir cette peur là. Non.
Bon, en tout cas, ce titre-là, c'est pas le seul album, hein, bien sûr. Par contre, on note effectivement qu'a priori, il y a un avis glissé. Ça serait un parfait disque d'or, c'est ça, ce titre? Non, en fin de titre. Hein.
Qui dit ça, c'est...
Sur le titre, sur la piste. Bon, c'est autre titre. Est-ce qu'on y pense justement par rapport au... Non, pas disque d'or, mais ce côté décerné, non pas récompense, mais côté pas bling-bling qui brille, mais le fait d'avoir un titre... On parle pas d'hymne cette fois-ci, mais on parle de titre qui se distingue parmi d'autres. Est-ce qu'on y pense à ce titre qui met en avant le groupe, et puis quelque part, le fait de vendre forme quelque part des disques ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui est une problématique aujourd'hui pour un groupe ou pas du tout?
Alors écoute, dans le titre qui met en avant le groupe, là, dans cet album, c'est Kids Are Not Stupid. Ce morceau-là, il résonne comme... Tu parlais d'un hymne. Actuellement, beaucoup de gens nous disent que c'est un tube, c'est un hymne. Bref, c'est un super morceau. Et on en est très très fiers d'ailleurs, vraiment. Même si nous, on considère que c'est pas le morceau de l'album, mais bref. Mais toujours est-il que, tu vois, on parlait de public qui chantait les refrains, machin. On n'a qu'une hâte, c'est genre de pouvoir faire une grosse scène en festival et puis d'avoir, non pas nos copains de nos caves rouennaises à 60 qui font « Ouais, machin, et tout, machin, on se retrouve après pour la faire. » Non, juste d'avoir je sais pas combien de personnes qui font la même chose, qui chantent les refrains et tout. Et évidemment que quand on entend tellement d'éloges par rapport à ce genre de morceau en nous disant mais votre morceau il est super, comment ça se fait que vous faites toujours des concerts dans des caves ou des machins, pourquoi vous faites pas des salles de spectacle ou des festivals? Et on répond bah on sait pas.
Ah mais je partage.
Et on répond parce que bah on n'a pas de tourneur ni de label, donc bah voilà.
Ah, mais entièrement d'accord sur ce titre, d'ailleurs on va y revenir juste après. J'avais un autre titre aussi que j'ai noté, Frantique. Alors une ligne de basse savoureuse, parce que la basse, je trouve qu'elle est très souvent perceptible et présente dans les titres.
Ouais.
J'ai pensé même parfois à The Who, parce qu'il y a les... Oh, c'est très bon, c'est très ondulant. Et Frantique, donc il y a cette ligne de basse savoureuse, on les entend surtout, on ressent bien les guitares dans ce titre. Est-ce qu'il vous arrive parfois de vous échanger les partitions entre guitaristes en amont de live, par exemple? Est-ce que c'est
tout.
Toujours la...
Pas du tout. Tout le monde a son, tout le monde a son plat. Si on touche pas,
on touche pas.
Non,
il y a pas de volonté de le faire. Il y a pas de risque à prendre. Non,
il y a pas de non. Pour l'instant, non. Après, en mode challenge et pour déconner, ça peut être marrant, quoi. Moi, je serais très partant de le faire. Je sais que mon Sacha qui a la guitare, il va me regarder, il va me faire non mais mec, jamais tu me refais ça et tout. Mais pourquoi pas.
Ça serait pas mal. La question on se pose, finalement, est-ce que c'est toujours le même qui joue la même partition? Est-ce que ça alterne?
Non, c'est vraiment toujours la même chose. Ouais, on a toujours été dans notre bassine à vraiment tryharder nos parties.
Alors, autre titre, Sacha's Song, excuse-moi la prononciation, pardon. Dans ce premier album, nous sensibilise de son ensoleillement, sa luminosité, de sa joie très communicative, proche d'un coup de foudre à la Fiddler, hein, clairement.
Wow.
Comment est né ce titre? Le matin, la nuit, au cours d'une fête, les chœurs sont très prenants. C'est vraiment la fête dans la tête de Sacha ou c'est plutôt la fête dans la tête de Nelson?
Alors c'est la fête dans la tête de Nelson, hein. Parce que c'est Nathan qui a écrit les paroles.
Oui.
Donc ce n'est pas la Sacha Song,
oui.
Ça devrait plutôt s'appeler Nathan's Song.
Oui.
Ça a été conçu, je pense, au cours d'une soirée. Je sais pas, Nathan a écrit les paroles et en fait il avait My Way de Frank Sinatra, tu vois. Et c'est un peu la même descente. C'est un peu le même style de descente. Et en fait, ça parle vraisemblablement de moi en étant un espèce de clown loufoque, bizarroïde. Qui regarde ses pompes et qui regarde souvent pas trop devant lui, machin, qui dès qu'il y a un poteau, bah oh wow, il a esquivé de justesse, tu vois. Écoutez bien les paroles, vous verrez que ça me définit plutôt bien. Et c'est Nathan qui a écrit ce texte. Et c'est une très très bonne chanson, encore une fois.
Ouais, elle est très.
Elle est cool.
Ouais, elle est super amusante.
C'est une petite baffe dans la gueule, quoi, ce morceau. Ouais, moi j'aime bien. Ouais.
Alors, le titre, justement, on parlait tout à l'heure de Kids Are Not Stupid. Alors, un titre à danser, émouvant, hein, quand même. Hein. Il t'arrive parfois d'être surpris à ton propre jeu, d'avoir des émotions qui te rattrapent et te piquer au vif quand tu enregistres, quand tu écris? Il y a que t'es saisi par l'émotion et tu es paralysé ou...
Ouais.
Est-ce que ça arrive?
Ouais. En fait, c'est marrant que j'aime beaucoup cette question parce que quand t'es musicien et que tu te retrouves devant tes prods à écouter tout le temps le même truc, tu changes de morceau, tu fais oui, bon, et puis tu reviens sur la prod d'avant, tu fais ah, machin. T'arrives pas à claquer des doigts et te mettre dans la position de l'auteur, enfin de l'auditeur, pardon, du public qui connaît pas le morceau. Parce que toi, en tant que musicien, t'entends toutes les petites fautes de merde. Et en fait, ce morceau-là, quand je l'écoute, j'ai des frissons.
Oui.
Tu vois. Et et c'est rare de d'enregistrer ses propres chansons et de frissonner à ses propres chansons, je trouve. Mmh. Et alors pour celle-là, quand je frissonne à cette chanson-là, je me dis ouh,
il se passe quelque chose.
Il se passe un truc. Ouais, ouais, il se passe un truc. Si elle arrive à me faire des émotions puissantes alors que c'est nous qui venons de l'écrire, c'est qu'il y a un truc. C'est qu'il y a des questions à se poser.
Ce titre, il est émouvant. Et quels sont finalement les autres titres dans d'autres répertoires que celui de Goo Goo Juice qui te font poser ta guitare, qui te font sortir le juice de tes yeux, on va dire, qui te piquent, qui te mettent la larme à l'œil?
You Know I Know, qui était dans New Values, qui est dans New Values, puisque c'est un morceau qui parle de ma maman. Et puis. Non, il y a, je sais pas, il y a, c'est pas un morceau en entier, mais souvent, tu sais, ça va être des petits bribes de ouais. notes qui vont ressurgir comme ça pendant le morceau. Je sais pas, genre, je pense par exemple, je te donne un exemple sur le Hey Jude des Beatles. À un moment, il y a les paroles qui disent The moment you need is on your shoulder. Donc ce texte qui n'a absolument, qui veut rien dire, mais juste la mélodie, la façon dont il le chante, ça ouais. me terrasse. Et dans certains de nos morceaux, il y a des petites bribes comme ça. Et ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien.
Alors côté sensibilité, effectivement, ce titre-là, mais on est servi aussi par le titre I Do the Get. Il est très beau. Si Dylan reste à la porte, bah on peut dire que Lou Reed là transparaît dans cette superbe voix, Nelson, une voix qui en raconte dès qu'elle s'exprime. Il y a une très belle sensibilité dans ce titre, je trouve en tout cas, sans jouer les mots sur les mots, mais un peu quand même. À quel moment cette voix a-t-elle été une révélation pour toi?
Le timbre un peu Lou Reed,
le timbre,
machin,
ouais, ouais.
Je sais pas.
ou même ta voix, en fait, quand elle a été entendue, je sais pas, à partir de quand tu chantes, par exemple, à partir de quel âge?
J'ai commencé très jeune, en fait. C'est que je devais avoir 8 ans. De 8 ans à 12 ans, j'étais dans une chorale, et puis j'ai enchaîné par la guitare, et mon père, il faisait de la batterie, du coup, il m'a appris la musique très tôt. Et la voix, moi j'étais un gros fan de Nirvana, donc le truc Cobain où je me suis mis à cloper, fumer des clopes et autre chose, tu vois. Donc le grain, et au final, je crois que le ouais, il y a Cobain, Lennon, donc ce timbre un peu nasillard, hi John, yeah, you know, well, you know, how are you? Et ce côté très simple, très intime à la Lou Reed. Mmh. Ben en fait, je crois que c'est Lou Reed qui gagne, qui est sur le podium, en fait, qui est en top 1, parce que je sais pas, il y a une nonchalance dans sa voix que je trouve extraordinaire, et il a pas besoin de hurler, il a pas besoin de crier, d'aller dans des notes super aiguës. Mmh. Ça reste du médium, ça reste du bas médium, et ça fait du bien à entendre du Lou Reed, tu vois. Tout le Velvet, je l'avais bouffé quand j'avais 18 à 20 ans, même encore aujourd'hui, je fais un plaisir d'écouter les Velvet. Mais il y a des albums de Lou Reed en solo où... ah ouais, non, mais c'est bon, quoi.
Ouais.
Ça fait du bien, quoi.
Bah, en tout cas, ça incite effectivement à écouter l'album. Est-ce qu'il y a d'autres titres pour lesquels, effectivement, il y aurait des anecdotes ou une distinction à mettre en avant dans cet album, dans ce premier opus?
Waouh, attends, tu peux me la refaire?
Là, on a cité quelques titres pour justement mettre, appâter nos auditeurs et auditrices. Mais est-ce qu'il y avait d'autres titres, par exemple, qui, d'une certaine manière, méritent un angle de vue, en tout cas le tien? Et comment tu pourras en parler, en dehors des titres que je viens d'évoquer?
Oui, alors on peut parler de Bullshit City. Mmh. Bullshit City qui parle de Rouen, notre ville actuelle. Voilà, Bullshit City. Rouen, je commence à en avoir un peu marre parce que... Attention à ce que j'allais dire. Parce que il y a des gens dangereux à Rouen, déjà d'une. Il se passe beaucoup de choses un peu nocifs. Il se passe de très très belles choses, par contre. Tout en étant une ville formidable et magnifique... tu traverses la rue, il n'y a pas un moment où dans ta journée tu croises personne que tu connais. Genre, à chaque fois que je sors dans la rue, je croise quelqu'un. Et donc ça, c'est cool, c'est un village, hein, Rouen, hein, donc c'est un bonheur d'y vivre. Mais il y a des moments où t'as envie de taper. T'as envie de taper dans un punching ball tellement il y a des choses qui énervent, qui fâchent. Donc on a voulu écrire une chanson qui parle un peu de ça. Genre, barrez-vous d'ici, ce lieu ne sert à rien, c'est sympa d'y rester, allez, 3 ans, mais pas plus, tu vois. Bref.
Bon, c'est un peu le pendant d'Hérouville-Saint-Clair et d'Orelsan, hein. quelque part, quand tu le décris, hein, j'ai vécu à Hérouville-Saint-Clair, pour te dire.
Voilà. Oui, oui, non, mais oui, voilà. À côté de Caen, il y a un petit côté banlieue, machin, évitons, mais bon.
D'ailleurs, une scène que vous avez faite dernièrement à Hérouville, je crois.
Oui, le BBC, oui, tout à fait. Big Band Café.
Alors, Go Go Juice, c'est plus qu'un album, hein, et deux EP, c'est aussi un groupe de scène, de live, et de vie à croquer le fruit pour apprécier le jus sonore. Quels sont les beaux et les bons souvenirs vécus en concert, les dates mémorables?
On avait fait notre dernier concert avec Hugo, du coup, qui était l'ancien membre du groupe, l'ancien batteur. Ça s'est passé à Rennes et ça s'est passé au... j'ai oublié le nom. Le gasoline. Le gasoline à Rennes. C'était super. Il faisait chaud, on a sué comme pas possible. Et le concert s'est passé tellement vite, alors que c'était le dernier qu'on faisait avec notre cher Hugo. On a évidemment chialé tous ensemble, tous les quatre. C'était à la fin d'un chapitre de plusieurs années qui se refermaient avec lui, en tout cas. D'autres dates. On avait fait Ça sonne à la porte, le festival Ça sonne à la porte, où il y avait Superman Lovers qui était là. Qui fait la French Touch, du coup,
ouais.
Avec Starlight. Et moi j'avais un lecteur cassette où on enregistrait des conneries qu'on mettait en open avant de commencer notre concert. Et du coup je vais voir le gars de Superman Lovers, je dis tu peux faire un mot pour la cassette et tout. Et il fait ouais. Et il était bon, on était un peu rond et tout. Puis il nous enregistre un truc, bref c'était cool. Point éphémère avec Hôtel Luxe.
Oui.
Les excellents Hôtel Luxe qui à chaque fois retournent le public. Petit Bain quand on a joué avec Wine Lips. On a fait Point Éphémère aussi avec Guriers. Il y en a plein.
De dates, hein.
Mais oui, il y en a plein.
Mais à l'opposé, le pire imprévu ou la mauvaise date.
On a joué à Dieppe. Je crois que c'est un bar qui s'appelle Au Bout Là-Bas.
Alors, il porte son nom.
Peut-être que je me trompe. Et on a joué, on était sur un bord, tu sais, c'est dans un port et tout. Et t'avais une scène qui était installée. Et puis t'avais le bar qui était un peu plus loin sur le trottoir. Et entre le trottoir et la scène, il y avait une petite terrasse où il n'y avait personne. On joue devant personne. Et puis au bout de 20 minutes, il se met à flotter. Donc, mais genre une pluie torrentielle. Sur la batterie, sur les guitares, les pedalboards, sur le clavier et tout. Et puis on se regarde en mode merde, et tout. Et en plus il y avait un match, du coup tout le monde s'en foutait de ce qu'on faisait. Et on s'est regardé, on fait on rentre en fait, on va rentrer faire la fête à Rouen, ça sert à rien. On a joué 20 minutes, le matos s'était trempé, bref. Récemment là, on a perforé notre ampli basse.
Terrible.
Ouais, la membrane elle est pétée. Enfin bref, des petits imprévus comme ça, ça arrive.
C'est des choses qui arrivent. Voilà. Après, en même temps, c'est ce qui fait la vie aussi. Hein.
Exactement.
Et donc, cet album, prochainement, il va être défendu en release.
Ouais.
La date, c'est
Le 18 juin, si je dis pas de bêtises. Attends, je vérifie. Il me semble que c'est le 18 juin à la Mécanique Ondulatoire. Je te confirme ça. Tic tac touc touc touc. La 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 la. La patience a des limites. Non. C'est le 19 juin.
19 juin. Voilà, donc le 19. D'accord.
19 juin.
Parfait. Et il y a une release aussi à Rouen, pas du tout, non?
La release, on l'a déjà faite.
Okay.
Ouais, on a déjà fait une release sur Rouen pour les copains. Et là, on fait une release parisienne, du coup.
D'accord, pour les autres copains.
Espérons inviter des pros et tout, quoi.
Alors, de votre histoire, on ressent une amitié très forte, hein, une fraternité partagée entre vous quatre, mais également avec celles et ceux qui vous accompagnent. Je reste sur cette image d'enfant terrible pour ma part de la scène rock française, notamment avec cette allure très iconique de scène, parfois des petites lunettes rondes. D'ailleurs, si vous deviez rejoindre certaines icônes rock, en faire la première partie, quelle serait-elle?
Lou Reed.
Lou Reed?
Ouais.
D'accord.
Lou Reed, ah putain, moi je dis Lou Reed, mais je sais pas ce qu'ils vont dire mes potes. Je pense que Nathan, il dirait genre un truc à la un mec de la country, tu vois, genre Ah non, là je peux pas te dire. Moi je dis, moi je vais te dire Lou Reed et oh la vache, Charles Aznavour.
Pourquoi pas? Mais il y a pas de chanson française, pas pour l'instant, je crois.
Hein. Ah non 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 non. Non, ouais, Lou Reed. Lou Reed. Ouais, carrément.
Et donc finalement, c'est avec Lou Reed que vous souhaiteriez peut-être éventuellement partir autour du monde en tournée, en tout cas, si c'était le cas possible.
Pourquoi pas, ouais.
Et côté scène rock française, si justement tu dois mettre en avant des groupes dont on ne parle pas assez, quels sont-ils ces groupes? Alors, ça soit la scène locale de Rouen ou en France?
On m'a récemment parlé de Madame.
Oui.
Tu vois, qui se défend extrêmement bien sur scène, qui envoie du steak à tout bout de champ et qui tourne tellement. Oui, genre, je trouve ça dingue à quel point ça tourne. Sur le côté local, bah, il y a Royal Casino, nos frérots qu'il faut toujours suivre de près. Il y a The Foam Artifact, qui sont le power trio de. Des frangins et cousins, ils sont trois. Et si t'aimes la musique garage des Flaming Groovies, des Wipers, de tout ça, des années 70 à 80, c'est eux qu'il faut aller voir. Ça se défend. Waouh. Local. Il y a le Meriaï Family Band,
ouais.
Qui est le projet de Nathan, notre bassiste, c'est de la country. Tu vois, et à côté de ça, il y a le Country Club, tout court. J'ai pas d'autres idées. Ils sont où, mais merde, putain. Sacha, Nathan, Martin, aidez-moi.
Et finalement, finalement, ça reste réducteur et qu'on a dit, c'était l'album, c'est le tome 1. Il y aura forcément des suites. D'ailleurs, s'il y avait un album 2, il serait éventuellement prévu d'ici quoi, 2 ans?
Ouais, pour l'instant, on se pose pas de questions sur un album 2. Non.
D'accord.
Non, non.
Go-Go Juice, c'est plutôt acidulé ou c'est sucré?
Les deux.
Les deux.
Ah bah oui, les deux.
D'accord.
Les deux.
Les deux.
Donc ouais, en fait, on aime bien faire des mélanges. D'accord. On aime bien faire des mélanges.
Autant sur scène qu'à l'extérieur. Non. Joker.
Mettre du coca dans une bière, c'est ça que t'es en train de dire?
Oui. En même temps, Joker, Go-Go Juice, mis un côté nectar, orange et tout. Nelson, je te remercie.
Merci
pour cette interview, ce temps consacré. Ça faisait un bout de temps qu'on aurait pu faire, non pas, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, ça fait 3 ans qui nous séparent de la première chronique de cette interview. Je te fais de gros bisous, ainsi qu'à tous les membres et à ceux qui vous accompagnent.
Bisous.
Cécile et Julia, entre autres.
Yeah.
Et je te dis à très bientôt, notamment à La Mécanique, le 19 juin pour la release parisienne. Merci, oui. Gros bisous.
Merci.
À bientôt, au revoir.
Salut.
Toutes nos émissions et chroniques sont maintenant disponibles sur vos plateformes de podcasts préférées. Spotify, Deezer, Apple, Amazon. N'hésitez pas à vous abonner.